Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question, comme l'année dernière, de Charles de Foucault. Je vous aiderai vous y revenir parce que c'est vraiment un des plus grands personnages du début de notre siècle. Et il a engendré dans notre Église une quinzaine au moins de, pourrait dire, de congrégations religieuses dont certaines sont extrêmement importantes et qui permettent à des femmes ou des hommes de vivre l'Évangile à fond et d'être des témoins comme il l'a été. Être témoin, c'est extrêmement important. C'est Paul VI, dans une exhortation apostolique sur l'évangélisation, qui disait « L'homme contemporain écoute plus volontiers, c'est-à-dire les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Je crois que c'est le rêve, évidemment, j'imagine, de chacun d'entre nous, de pouvoir être un témoin valable, et c'est très difficile. Charles de Foucault y est parvenu de façon fantastique, extraordinaire, alors qu'il partait de très très loin. De très très loin. On pouvait dire que jamais il n'y parviendrait. Car Charles de Foucault, je m'inspire d'un texte de Jean-Jacques Antier paru l'an dernier dans cette belle revue Feu et Lumière qui est publiée par la Communauté des Béatitudes. Je vous recommande de vous abonner à cette excellente revue. Il y a une Communauté des Béatitudes à Saint-Ours, ainsi qu'en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. C'est une communauté française, établie ici. Charles de Foucault est né le 15 septembre 1858 en France, à Strasbourg. Donc, dans l'est de la France, il appartient à une famille de très ancienne noblesse. On retrace des Foucault, même autour de Jeanne d'Arc, lors du sacre du roi de France à Reims. Son père, le vicomte Édouard de Foucault, a épousé une noble aussi, Élisabeth de Morlaix, fille d'un colonel. Et alors que Charles n'a que 6 ans, lui et sa sœur cadette Marie sont frappés d'une suite de drames et qui vont les marquer à jamais. Il a 6 ans et il perd en 1 an son père et sa mère, qui meurent, son père de tuberculose et sa mère au moment de mettre un enfant au monde. Et tout ça en 1 an le laisse désemparé. Les enfants sont confiés à la garde de leur grand-père maternel, le colonel de Morlaix. Et 7 ans plus tard, il y a la guerre franco-prussienne qui les chasse de Strasbourg. C'est les Français, puis les Prussiens, les Allemands qui se battent, et Strasbourg, c'est une ville plus ou moins française, plus ou moins allemande. Quand on va à Strasbourg, on entend souvent les Français qui se parlent allemand entre eux, c'est assez curieux. Et il s'installe alors, cette famille à Nancy, où le jeune Charles de Foucault poursuit ses études au lycée, normalement, puis à Paris chez les Jésuites. Il est très indépendant de caractère et son grand-père est un peu mou à son égard. Il perd la foi, Charles, à 16 ans. Et il la perd pour vrai, là. Et pour vrai, entendons-nous, c'est-à-dire que sa conduite va être épouvantable, c'est très bien décrit par Marguerite Castillon-Duperron dans son immense livre « Charles de Foucault » paru chez Grasset. Je ne saurais trop vous recommander ce livre, même s'il date de quelques années déjà. Je l'avais invité à Rencontre à la télévision. Elle nous avait donné 2 entrevues qui montraient combien cette mère de famille était compétente en hagiographie, c'est-à-dire en façon d'écrire la vie d'un saint, ou à tout le moins de quelqu'un qu'on considère comme un saint. En 1876, donc à 18 ans, il est encouragé par son grand-père, le colonel, et il entre, Charles de Foucault, sans enthousiasme, à l'école militaire de Saint-Cyr, et 2 ans plus tard, la mort de son grand-père provoque une nouvelle rupture affective. ça l'affecte beaucoup. Il a hérité de ses parents, quand il avait 6 ans, mais il pouvait pas y toucher. Et il a hérité ensuite du colonel, son grand-père, des sommes fabuleuses. Il est riche, extrêmement riche. Il est étrangement désabusé, il est gras, gros, il a l'air terrible. Il demeure marqué par les drames de son enfance. Charles de Foucault devient un jeune esthète sceptique libertin qui essaie de trouver dans le plaisir et vraiment, là, c'est pas simplement des mots, une compensation. Il veut chercher, oui, quelque chose d'autre. Une compensation à l'absurdité apparente de l'existence. Et là, il est en garnison au 4e hussard de Pont-à-Mousson, puis de Sétif. Et là, bien, le sous-lieutenant de Foucault se fait mettre en 1881 pour indiscipline, en non-activité pour retrait d'emploi. C'est comme ça qu'on utilisait le vocabulaire à l'époque. Non-activité pour retrait d'emploi. Bon, c'est une façon de parler, hein. Il a été renvoyé tout simplement pour mauvaise conduite, il se présentait avec sa maîtresse, etc. Il était d'une... Puis il organisait des réceptions fastueuses qui coûtaient des fortunes. Il se retire à Évian, donc avec sa maîtresse, qui l'avait accompagné en Algérie. Et soudain, tout bascule. Il apprend que son régiment se bat en Tunisie contre des tribus qui sont descendues des montagnes, qui sont irréductibles. Alors, il sollicite et obtient sa réintégration dans l'armée française. Il est alors affecté au 4e chasseur d'Afrique, à la tête d'un peloton où il fait l'admiration de tous. Il y a eu une transformation au contact des musulmans et de l'islam, et aussi des juifs, dans la foi ardente des croyants de ces deux religions. Passé le feu de l'action, là, la vie monotone de garnison le fait à nouveau périr d'ennui. Oh, qu'il s'ennuie, il démissionne. Oui, il démissionne de l'armée, puis se lance dans l'aventure pour explorer le Maroc insoumis. Après avoir frôlé 10 fois la mort, il revient 1 an plus tard, puis il va publier Reconnaissance au Maroc. Et cette exploration le rend célèbre parmi les géographes, et son âme est transformée petit à petit. Il n'est pas croyant, mais il se pose bien des questions. Rien n'est réglé. Et il se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut donc faire de cette vie qui nous semble être donnée par le hasard? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Il songe à se marier. Il casse le projet. Il vit à Paris sagement à ce moment-là. Il fréquente un brillant salon de sa tante, Inès Moitessier, et qu'un salon de réception reçoit des gens intéressants. Il écoute les conseils de sa cousine, Marie de Bondy. Il semble qu'il l'ait un peu aimée. Elle était plus âgée que lui de plusieurs années. Et il voudrait retrouver cette foi qu'il a perdue et qui le hante, parce que Marie de Bondy lui donne un très bel exemple. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu dont il a aussi entendu l'appel lointain, au fond, dans les déserts d'Afrique, au contact des musulmans? Il est fasciné par la ferveur religieuse des populations musulmanes et juives, toujours. Et souvent, il a laissé ce cri monter de son cœur. Écoutez ce cri, c'est un très beau cri. Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi savoir. En octobre 1886, eh bien, Charles de Foucault décide enfin de rencontrer l'abbé Huvelin sur les conseils de sa cousine. L'abbé Huvelin dont je vous ai parlé le 7 octobre, il est vicaire de Saint-Augustin. C'est un ami de sa famille. Il est prêtre d'un exceptionnel esprit de discernement. Vous me trouvez, puis il dit, monsieur l'abbé, je ne viens pas me confesser, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas la foi. Je désire seulement quelques renseignements sur la religion catholique. L'abbé Huvelin, qui est très perspicace, vous l'avez vu dans cette émission que je vous ai faite, il dit, Vous n'avez donc jamais cru? Oh, d'autres fois, mais je ne puis plus croire. Je me heurte à toutes ces difficultés, des mystères, des dogmes, les miracles. Et l'abbé Huvelin lui répond, « Vous vous trompez, mon enfant. Ce qui vous manque pour croire, c'est un cœur pur. Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu et vous croirez. » Il dit, « Mais je ne suis pas venu pour cela. » Et c'est alors le miracle. Charles, officier, de famille noble, extrêmement riche, il plie les genoux. Il s'abandonne et humblement il se confesse. Il se remet entièrement à Dieu, Père, auquel il ne croit pas encore et qui soudain l'illumine. Plus tard, il va écrire ce qui suit, « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » Oui, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Alors c'est la conversion, ce qu'on appelle en grec la métanoïa, la rencontre du Christ qui ne le quittera plus. Ce qui suit, c'est une longue quête de l'absolu, pour se donner entièrement à ce Dieu. Être moine contemplatif lui semble idéal, il choisit l'ordre le plus austère, les trappistes cisterciens de la stricte observance, où il entre en 1890, après avoir abandonné tous ses biens, des richesses immenses, à sa sœur. Il est donc novice à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, un peu dans le sud de la France. Loin de tout, c'est une trappe éloignée de tous. Et Charles de Foucault se fait remarquer par ses austérités comme s'il voulait racheter sa jeunesse gâchée. Et quelques mois plus tard, eh bien, il gagne, avec les permissions des autorités, la trappe d'Akbkès dans la Syrie turque, une abbaye perdue où tente de survivre une poignée de moines, des vrais héros. Il a fait ce choix pour être, pour toujours, coupé de sa parenté pour laquelle il a une immense affection. Et il y restera 6 ans. Vous avez reconnu les paroles, un saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le sens profond de nos vies, de notre éternité. Et c'est le sens profond de la vie des trappistes, des cisterciens de la stricte observance. Il reste donc 6 ans à Abkès, dans la Syrie turque. Mais malgré l'extrême dureté des conditions de vie, le choléra et les persécutions qui ne cessent de menacer le monastère, le père Charles de Foucault demeure insatisfait. Il se voudrait le dernier, on a fait de lui un moine de cœur, séparé des convers. Les convers, ce sont, je vous l'explique, pour les plus jeunes, ce sont des moines qui ne deviennent pas prêtres, soit qu'ils n'aient pas l'instruction, soit qu'ils ne désirent pas devenir prêtres, et qui veulent être des moines très humbles, très simples, qui font des travaux manuels ou des travaux d'entretien, des travaux de toutes sortes, et qui se consacrent à cette vie dans l'humilité et la simplicité, et qui, dans bien des occasions, je l'ai remarqué dans de nombreux monastères où je suis allé, certains d'entre eux sont des saints. Ses supérieurs à Charles de Foucault ont remarqué ses dons exceptionnels. Ils veulent en faire un prêtre et le former aux fonctions de maître des novices pour la formation des futurs moines. Mais Charles de Foucault, lui, ils ne pensent qu'à imiter le Christ humilié. Il veut partir et, invité à prononcer ses vœux solennels, il en appelle à l'abbé général de l'ordre, c'est-à-dire le grand supérieur général de tout l'ordre qui vit à Rome, dans une trappe là-bas, et qui le reçoit en 1897, l'année même de la mort de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a des connotations entre ces deux personnages extraordinaires de l'Église. Charles de Foucault, qui demeure dans l'obéissance, commence ses études de théologie à Rome. Et c'est alors que le père ou l'abbé général, édifié par la profondeur de cette vocation exceptionnelle, qui est jointe à une grande obéissance, puis à une humilité sans réserve, il lui rend sa liberté pour ce que Dieu voudra faire de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire de sa liberté? Sur le conseil de son directeur spirituel, l'abbé Huvelin, Charles de Foucault va s'enfouir à la porte d'une pauvre communauté de Clarisses à Nazareth, qui l'accepte comme jardinier, quelqu'un pour faire les courses, qu'on appelle un coursier, si vous voulez. Tout ça en échange d'un morceau de pain comme salaire, et le droit, le bonheur de l'adoration dans leur chapelle. J'y suis allé visiter ça, c'est très, très émouvant quand on va à Nazareth. Oh, que c'est émouvant. Mais il se cache en vain, Charles de Foucault. Sa piété intense, ses austérités le font remarquer par l'abbesse des Clarisses de Jérusalem. Elle est éblouie par celui qu'elle considère déjà comme un saint. Son nom, Mère Élisabeth. Elle tente, évidemment, de se l'attacher au monastère des Clarisses. Et elle lui conseille de demander le sacerdoce pour devenir l'aumônier des Clarisses. Mais à nouveau, Charles de Foucault va échapper à cette tentation du bonheur. Vivre de la contemplation de Dieu à l'ombre d'un pauvre monastère. Pour le garder, Mère Élisabeth l'encourage dans son projet de fonder un ordre entièrement voué au service des plus pauvres, mais sans aucune possession collective, dans l'incertitude, quoi, puis le partage de leurs souffrances. Et ce projet, c'est l'ébauche, oui, de la règle des petits frères de Jésus, que va fonder plus tard le Père Voyaume. Mais l'abbé Huvelin le met en garde, c'est son directeur de conscience toujours, il le met en garde contre les mortifications excessives que cette vie comporte. Et il lui dit, surtout ne fondez pas. Il ne fondera finalement pas. En 1900, Charles de Foucault se prépare enfin au sacerdoce dans l'abbaye des Trappistes, où il a séjourné assez longtemps, Notre-Dame-des-Neiges, en France, et il est ordonné prêtre à 43 ans. Et alors, il retourne en Afrique, ardent et tout donné aux plus pauvres. Charles de Foucault est chaleureusement accueilli par les officiers français, dont certains sont ses anciens camarades. Il faut vous dire que les officiers français occupaient tout le Maghreb et considéraient un peu ces pays comme des parties de la France. Il arrive en 1901 à Beni Abbès, une grande oasis au sud de l'Algérie, où il sert d'aumônier à une importante garnison. C'est plein d'officiers, de soldats, là. Et il vit en marge dans un ermitage qu'il se construit à l'écart, mais sa vie contemplative lui échappe vite, hein, sa porte ouverte jour et nuit, mais il est submergé par les pauvres grâce à la générosité de sa famille qui est très riche, sa sœur qui, à laquelle il a tout donné. Eh bien, il rachète de jeunes esclaves noirs et leur rend la liberté. Car les musulmans ont souvent des esclaves noirs à l'époque. Ça existe encore, malheureusement, hein, au Soudan. il est scandalisé, lui, de voir que le gouvernement de la République française, après avoir aboli l'esclavage, le tolère en sous-main pour se ménager les chefs musulmans, les chefs coutumiers, là, comme on dit. Alors, il s'engage à fond pour obtenir l'application pratico-pratique là, de l'abolition de l'esclavage. Entre 1902 et 1904, il y a le fameux colonel Lapérine qui pacifie le Sahara, d'abord par les armes. Mais cet officier brillant sait qu'il n'obtiendra rien de durable par la force s'il ne sait pas, avec ses soldats, gagner le cœur des populations berbères et touaregs. Nous avons ici à Montréal des Algériens d'origine berbère qui ne sont pas du même peuple arabe. Ce sont pas des Arabes. Nous en avons, moi, ce sont très sympathiques, ces Berbères. J'en ai déjà reçu chez moi. Très gentils. Ce sont d'ailleurs des Arabes qui me les ont amenés, car ils fraternisent beaucoup. À la répression brutale succède une vraie pacification, là. Et là, Charles de Foucault va constituer l'aile avancée pacificatrice du colonel Lapérine dans ce qu'on appelle le Hoggar, cette région désertique. Après plusieurs tournées d'apprivoisement, là, il obtient la confiance du chef des Touaregs, Moussa Agh Amastan, et il s'installe le 13 août 1905 à Tamanrasset. Hein, on connaît ça, Charles de Foucault a vécu à Tamanrasset. Hein. C'est un pari risqué, car le désert du Hoggar, ben, c'est à peine soumis, ces gens-là ne sont pas tellement soumis aux Français. Lorsque la colonne des méharistes disparaît dans le nord, vers le nord qui lui reste dans le sud, là, de l'Algérie, mon frère Charles demeure seul Européen chrétien dans un carrefour misérable de caravanes musulmanes. Il devient, parmi tout ce monde-là, le témoin du Christ. Un témoin du Christ en pays d'islam, seul. Serviteur des plus pauvres, des hommes les plus abandonnés. Il se construit un ermitage. Et sur le sol de sable, il dresse tout ce qu'il y a de plus simple. Un autel en bois de caisse. Et dans l'action de grâce, il célèbre l'Eucharistie. Il est le seul prêtre à 1500 kilomètres à la ronde. Il va y demeurer 10 ans, 10 ans. Il partage tout ce qu'il a avec les pauvres, ce qui le voue à l'absolue pauvreté. Lui qui est d'origine si riche. Si je vous décrivais les réceptions qu'il faisait quand il était un païen, vous seriez stupéfait. Il faisait même venir des prostituées de Paris dans les carrosses. Charles de Foucault, alors là, va tenter en vain de former une communauté de petits frères. Sa règle est dure, le travail accablant. Il nourrit, il soigne, il prie, il écrit beaucoup, il couvre des milliers de pages. Oh, c'est beau, ces méditations spirituelles ont été écrites à Nazareth. C'est très simple, très très simple. C'est pas un grand théologien, c'est un homme de cœur, de foi. Et maintenant, il traduit l'Évangile en langue touareg. Il rédige le dictionnaire et la grammaire tamachèque pour ouvrir la voie aux missionnaires qu'il voudrait bien voir arriver. Mais personne ne vient. Il est donc dans le désert à Tamanrasset. Il voudrait bien voir arriver des missionnaires, mais personne ne vient, vous ai-je dit. Et au plan des conversions, son échec apparent est flagrant. Convertir des musulmans, ce n'est pas facile. S'il est bien intégré et reçu par ces gens, il est même aimé et vénéré des populations. On l'appelle le marabout, c'est-à-dire le sage, si vous voulez, spirituel. Il ne parvient pas, Charles de Foucault, à entamer le roc des convictions musulmanes qui sont ancrées dans les traditions millénaires. Mais il y en a des musulmans qui deviennent catholiques, mais c'est habituellement incognito, ils ne peuvent pas le dire. Leur vie serait en danger, même ici à Montréal. Cependant, sa foi demeure totale. Lui n'est qu'un instrument imparfait de l'amour. Dieu seul convertit à son heure. Ce n'est pas facile vraiment d'amener des musulmans à la foi catholique, non, vraiment pas. Et les années 1910 sont dures à Tamanrasset, où règne la famine. Il ne profite guère de son ermitage, Charles de Foucauld, ermitage d'été de Lassécrème au sommet du Hogar. La guerre de 1914, en vidant l'Algérie des troupes françaises, fait renaître l'insécurité. Et là, les rebelles sénoucides sont armés par les Allemands et les Turcs. Ils déferlent de Tripolitaine. Ils tentent de soulever les tribus instables du Hogar où se trouve Charles de Foucauld. Et en 1915, frère Charles, car on l'appelle maintenant frère Charles, construit un fort à Tamanrasset, donc en briques sèches, pour mettre à l'abri des pillards les réserves de nourriture qui sont destinées à la population affamée, mais il demeure désespérément seul. Et le 1er décembre 1916, c'est l'anniversaire, il tombe tué d'une balle dans la tête. Il est victime d'un radio de pillards qui avait projeté de le prendre en otage pour les sénoucistes, les révolutionnaires. Son sang répandu sur le sable va féconder enfin le désert. On peut dire que l'ermite est mort, mais que le frère universel, c'est son nom aussi, le frère universel, il va rayonner. Et on voit fleurir, oui, dans le monde, les communautés des petits frères et sœurs de Foucauld. Au total, 340 fraternités issues de 18 familles spirituelles qui ont en commun la spiritualité de Charles de Foucauld. La spiritualité foucauldienne, comme on dit. Imitation du Christ dans l'effacement, le travail et la prière. Présence et partage au milieu des plus pauvres. En 1927, l'Église a ouvert son procès de béatification qui est en bonne voie. Le 12 septembre 1983, Jean-Paul II citait Charles de Foucauld en exemple pour, je cite les paroles de Jean-Paul II, pour la sainteté de sa vie quotidienne. Déjà en 1967, Paul VI avait aussi donné en exemple, ouvrez les guillemets, le frère universel, modèle de charité. C'est un exemple dont notre monde moderne a besoin. C'est un saint pour le 20e siècle. Je reviens sur sa mort. Avec un texte de Pierre-Marie Delfieux qui a fondé cette belle communauté, qui s'inspire en somme de Charles de Foucauld, et qui est la communauté des moines et des moniales de Jérusalem. Ils sont à l'église Saint-Gervais et Protais, en particulier à Paris et en plusieurs autres endroits. C'est donc près d'un cours d'eau, un grand oued desséché dont le lit de sable descend des monts de l'Atacor pour se perdre, vous savez, comme tous les fleuves sahariens, comme dans une mer de sable, sans contour, sans nom, où il n'y a aucune vie. Alors c'est là que Charles de Foucauld a planté sa tente. De bambou d'abord, de terre cuite ensuite, comme je vous ai dit, et depuis des années, le voici là, Gat El Oued, au cœur de ce village de 20 à 30 feux allumés aux portes de maisons, en fait, des éribas, dans cette oasis du Grand Sud, là, qui porte le nom encore quasiment ignoré du monde entier de Tamanrasset. Charles de Foucauld, c'est un disciple du Christ. Un vrai converti à la mystique de la vie humble et cachée de Nazareth. Il a choisi de venir s'enfouir ici, mais pour y briller humblement comme une lampe allumée en pleine nuit. Le beau être dans un désert, c'est un témoin de l'absolu de Dieu, Et c'est par amour, pour les plus démunis, les plus loin. Même si ce sont des musulmans, il les aime, hein? Et pourquoi pas? Il est là, et il prie. Il est là, et il y vit. Il est là, et il dure. On l'écoute, on le consulte, on l'accepte, on l'oublie. C'est pas tout à fait sage, ni tout à fait fou. C'est une étrange vie. Peut-être pas encore un saint accompli, ce Charles de Foucault, à ce moment-là, mais déjà tellement plus qu'un bon à rien perdu en religion. Un vicomte, extrêmement riche qui devient ermite. Un officier remarquable qui devient marabout. Un Français qui s'est fait Touareg. Un Parisien qui est pour toujours un Saharien. Quelle étrange histoire. Et voici tant d'années qu'il a quitté les messes d'officiers, les salons parisiens, les cours universitaires, de gaspillage, une existence baignée d'insouciance et de plaisir. Et peu à peu, le désert, ou plutôt, oui, Dieu, à travers le désert, lui ont tout appris. Il en rend grâce au Père, à Dieu. On n'est grand que par l'humilité. On n'est instruit que par l'enfoncement dans la petitesse. L'important n'est pas de flamber. Faut durer, tenir, hein? S'accrocher au désert, persévérer sous la canicule, le soleil épouvantable de midi, puis la froidure de la nuit, car là-bas, il fait froid la nuit, hein? L'essentiel est d'aimer. Mais ici, sans espoir de retour, nous tout venons pour l'aimer. Avec un cœur de frère universel. Et tout ça dans une disponibilité de chaque instant dans un pays musulman. Au soir de ce 1er décembre, donc, à l'heure où tombe la nuit froide, frère Charles songe peut-être une fois encore à ce qu'il a pensé, médité longtemps, désiré, ainsi sans doute, au point de l'écrire et de le corriger dans ses cahiers de notes spirituelles, mais comme une prémonition de sa propre mort, où il écrit, en quelque sorte, point par point, il écrit tout seul à l'essentiel de ce qui va lui arriver. Il écrit, oh, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai relue 1000 fois, « Pense que tu dois mourir, martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. » Quelques années plus tard, le 1er décembre 1916, il devait mourir, en effet, tué d'une balle en pleine nuque, je vous l'ai dit, hein, en versant son sang, tout près du bord de Tamanrasset, à l'heure où tombe la nuit sur le désert, et exactement comme il l'avait pressenti, ce sera un premier vendredi du mois où on fête le Sacré-Cœur, pour lequel il avait un culte profond, je dis pas une dévotion, un culte. Sans doute qu'on pourrait jamais en finir de se demander si le père Charles de Foucault est mort martyr. C'est pour ça que je vais vous en parler, parce qu'il est mort martyr. Beaucoup, même parmi ses proches et amis, s'évertuent à nier qu'il est mort martyr. Mais la question est-elle bien posée? Qu'est-ce qu'un martyr, en effet? Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de martyrs. Oui, vous qui m'écoutez. Écoutez bien, le martyr n'est pas d'abord celui que l'on tue, mais celui qui témoigne de sa foi au jour le jour. Au jour le jour. Et frère Charles l'a fait dans une fidélité à toute épreuve. Il n'est pas d'abord celui qu'on assassine, mais celui qui donne sa vie avec amour au long des jours. Et il l'a versé goutte à goutte par amour de Dieu et pour le peuple Touareg. Celui qui témoigne, s'il le faut, jusqu'à risquer qu'un jour on lui ôte la vie, en conséquence de sa foi et par suite de sa fidélité d'espérance et d'amour. C'est Saint Victrice de Rouen, au IVe siècle, c'est pas d'aujourd'hui, qui disait « Le martyr n'est rien d'autre qu'un imitateur du Christ. » Origène, aussi, dont je vous ai parlé, précise de son côté Il y a des hommes connus de Dieu seul, qui sont déjà pour lui des martyrs au témoignage de leur conscience, parce qu'ils sont prêts, si on le leur demande, à répandre leur sang pour le nom de Jésus-Christ. Alors c'est peu de dire que frère Charles de Foucault, s'y était préparé. Et le mystique allemand Jean Toller, dont je vous ai parlé tout récemment, au XIVe siècle, il ajoute Jean Toller, « Certains subissent le martyr une bonne fois par le glaive. D'autres connaissent le martyr qui les couronne de l'intérieur. » C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de martyrs qui m'écoutent. Vous qui êtes malade, vous qui êtes fidèle dans votre mariage, à l'éducation de vos enfants, vous qui faites tout ce que vous pouvez pour être ce que vous êtes, vous prêtres de Jésus-Christ, qui êtes de saints prêtres, et vous évêques, et vous religieuses et frères, oui. Ainsi peut-on être authentiquement martyr de la virginité comme Maria Goretti, ou martyr de la charité comme Maximilien Kolbe? Laissons à la congrégation pour la cause des saints le soin de nous dire si la fin de frère Charles mort en refusant de prononcer la formule, vous savez, cette formule musulmane, comme Paul en Barek. Oui, il y avait quelqu'un qui était là, il s'appelait Paul, c'était un Touareg. Il était témoin oculaire de sa mort. Il l'a dit, et avant de se rétracter, il l'a dit. Mais il s'est rétracté parce qu'il était craignait les musulmans. Il faut mettre ça à l'ordre du sang des martyrs. Voici le récit de Paul en Barek. Il a confié le 19 avril 1927, 11 ans après la mort de frère Charles, et s'est consigné dans le procès de l'ordinaire de Gardaïa, et qui vient récemment d'être publié dans son intégralité. Je vous le lis. Au bout de peu de jours, vinrent ces voleurs-là. Ils arrêtèrent leurs chameaux près des figuiers de la Fogara de Conali vers le soir. Deux d'entre eux vinrent à moi, les autres allèrent chez lui, chez Charles. Et Madani les devança et lui dit, « Je suis porteur du courrier. » Le père de Foucault demanda, « D'où viens-tu ? » Et il dit, « De Traouaout. » Les autres, tous, le saisirent et le tirèrent. Entre eux, ils dirent que le père pleura. Ils lui dirent, « Prononce la formule. » Je n'ose presque pas vous la prononcer, mais je la dis, c'est Allah et Dieu et Mahomet et son prophète. Quand on dit ça, paraît-il, on devient musulman. Alors, Charles, frère Charles, ne voulut pas prononcer évidemment cette formule. Il garda le silence. Ce serait renier Jésus. Quand j'arrivai, dit Paul en Barek, quand j'arrivai, je le vis debout, non encore attaché. Je les entendis lui dire, « Mets tes mains derrière le dos. » Il mit les mains derrière le dos, ils l'attachèrent, et lui crachèrent au visage. Il ne dit rien. Ensuite, ils lui dirent, « Assieds-toi par terre. » Il s'assit, on lui lia les pieds. Après qu'ils m'eurent interrogé, moi, Paul, vinrent deux soldats du village, et quand vinrent les soldats, celui qui gardait le père, il était près de nous, tira sur lui. Le père tomba. Ils l'atteignirent au cou, sous l'oreille, d'un coup porté de haut en bas. Il s'appuya sur la main droite. Ils vinrent pour lui déchirer ses vêtements. Il tomba, il roula avec eux dans le fossé. La balle frappa une pierre, rebondit sur le mur et s'y figea. Donne le sang de ton cœur et tu recevras l'esprit, c'est ce que disaient les pères du désert. Au désert de Beni Abbès, de Taman Rasset, de Lassekrem, suivant le désert de son arrachement à sa vie de facilité de fantaisie, la bien frère Charles a vécu, lui aussi, ce martyr quotidien qui peut être le nôtre, le martyr quotidien de tout vrai disciple du Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné, lui, Charles de Foucault, hein? l'arrachement de son cœur dans le sacrifice de tant d'affection et d'amitié. Il a offert le don de son intelligence dans le renoncement à toute une action où il lui eût été facile de produire et de briller. Il aurait pu être professeur, membre de grandes associations savantes à Paris. Il aurait pu tout avoir. Il a offert tout le succès, évangélisateur même et apostolique, oui, car il a accepté de naître presque rien. Après tant d'années, il n'est même pas parvenu à convertir un seul chrétien. Il est allé jusqu'à ce refus ultime de quitter Tamanrasset en danger au nom de la charité par pure solidarité, ce qui est bien comme une forme de martyr librement consenti. Hein. Imaginez, il rêvait d'être moine, il ne l'a pas été. Il pensait être missionnaire et n'y est pas parvenu. Il eût aimé être pasteur. Il n'a pas été suivi. Évangélisateur, il n'avait personne pour l'écouter. Il rêvait d'être fondateur d'un ordre nouveau et aucun disciple n'a tenu à ses côtés. Se voulait frère universel, il est mort dans la solitude. Charles de Foucault était désireux de communion. Il a fini dans l'abandon. Comme le grain de blé meurt en terre, et qui meurt et reste seul, mais en sachant que la plus belle preuve d'amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous ai trouvé un texte de Charles de Foucault qui me plaît beaucoup, qu'on connaît bien peu. Je vous le lis calmement. Vous vous êtes recueilli un instant avant d'entrer dans le temple. Vous nous y avez embrassé, Dieu de mon âme, Seigneur bien-aimé. Puis, suivi de vos seuls apôtres, vous êtes entré dans le temple, et aussitôt vous avez commencé à y faire l'œuvre de votre Père, à en chasser les vendeurs. C'est ce que vous faites en ce moment, mon Dieu, avec une sainte indignation et un courage divin, marchant seul contre tous, le bras haut, châtiant et chassant tout ce qui souille la maison de Dieu. Mon Dieu, faites cette œuvre en moi et donnez encore du courage. Voici mon âme. Voici mon âme, temple du Saint-Esprit, maison de Dieu, votre toit, votre foyer, ô mon Jésus. Vous qui chaque jour y venez, et ce matin même y êtes entré. Oui, chassez, chassez, je vous en supplie, de mon âme, tout ce qui vous y déplaît. Montrez-moi tout ce qui la souille. Donnez-moi le courage de vous aider à le chasser. Oh, faites, je vous en prie, ce grand nettoyage de mon âme qui en a tant besoin. Faites-en une maison de prière, un lieu pur, vide de tout ce qui n'est pas vous et uni par vous, où vous soyez parfaitement glorifié. Et comme il faut pour que cette pureté, ce vide, cette netteté de mon âme persiste, que je coopère à votre œuvre, oui. Oh, donnez-moi le courage de le faire. Donnez-moi le courage de chasser de mon âme, de mes actes, tout ce que je sais que vous ne voulez pas y voir. Faites-moi voir ce qu'il faut balayer, et donnez-moi le courage de le balayer. Charles de Foucault, je vous rappelle, il y a des livres à son sujet en quantité innombrable. Allez dans les librairies, vous y verrez, comme mettons aller chez Mediapol, vous y verrez des dizaines de livres, des œuvres spirituelles de Charles de Foucault qui sont intitulées « La bonté de Dieu », « Considérations sur les fêtes de l'année », c'en était un extrait que je vous ai lu. « Qui peut résister à Dieu ?»« Petit frère de Jésus, l'Esprit de Jésus, crier l'Évangile, etc. etc. » C'est plein. Des biographies, c'est plein. Jean-François Six en a écrit de très belles. Marguerite Castillon-Duperron, ce gros livre immense et magnifique que je ne saurais que vous recommander. Il faut lire ces choses-là. Il faut prier avec lui en disant, et je termine, « Je m'abandonne à vous, mon Père. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Oh oui, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je vous aime et que ça m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père, vous êtes mon Père.